Et le journal, c'est avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Emmanuel Macron compte supprimer l'exit tax l'année prochaine. Selon lui, cet impôt sur les plus-values, lorsqu'un résident quitte la France, envoie un message négatif aux entrepreneurs. L'ETA annonce sa dissolution. L'organisation séparatiste basque avait renoncé définitivement aux actions violentes en 2011. Elle acte aujourd'hui la dissolution de toutes ses structures. La Commission européenne propose un budget en hausse après le Brexit, malgré la perte de la contribution britannique. Mais Bruxelles demande une baisse de 5% des fonds alloués à la politique agricole commune, position inacceptable aux yeux de la France. De nouvelles élections doivent avoir lieu mardi prochain en Arménie, mais pour l'instant la capitale Yerevan est paralysée. L'opposant Nicole Pachinian a appelé ses partisans à la désobéissance civile. Emmanuel Macron fait la une du magazine Forbes qui le qualifie de chef des marchés libres. Dans cet entretien au magazine économique américain, le président français insiste longuement sur sa réforme du code du travail et de la fiscalité et sur sa volonté de multiplier les mesures pour encourager les entrepreneurs. Dans ce cadre, il annonce son intention de supprimer l'exit tax, qu'il juge néfaste pour le pays. L'exit tax, qu'est-ce que c'est exactement, Catherine Pétillon ?
Alors, dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est, je cite, un message négatif, surtout pour les entrepreneurs, car au-delà d'un certain seuil, vous êtes pénalisé si vous quittez la France. Alors, ce que le président décrit en ces termes, c'est un impôt introduit en 2011 sous Nicolas Sarkozy. Désormais, un contribuable qui déménage son foyer fiscal à l'étranger doit payer un impôt sur les plus-values constatées à l'occasion de ce transfert, à quelques conditions tout de même, avoir passé au moins 6 ans en France et détenir un patrimoine en actions et obligations supérieur à 800 000 euros ou au moins 50% du capital d'une entreprise. Rappelons que l'objectif de cette exit tax, c'est de lutter contre des pratiques d'optimisation fiscale et en particulier de limiter l'exil temporaire de chefs d'entreprise voulant céder leur participation dans des conditions fiscales plus avantageuses. Or, pour Emmanuel Macron, cet impôt n'a, je cite, pas de sens et il apporte plusieurs justifications à sa suppression. D'abord, explique-t-il, chacun doit être libre d'investir où il veut. Vous ne devriez pas avoir à expliquer à votre partenaire, si tu te maries avec moi, tu ne seras pas libre de divorcer, compare le président de la République. Il estime aussi que cela incite les start-up françaises à lancer leurs projets à l'étranger pour éviter cet impôt, même si, je vous le disais, il n'est dû que dans certaines conditions très précises. Enfin, cela ne serait, je cite, pas très intéressant pour les finances publiques. Cette nouvelle annonce en matière de fiscalité a suscité une salve de critiques contre la politique du gouvernement envers les plus riches.
Merci pour ces explications, Catherine Pétillon. Je me tourne maintenant vers vous, Ludovic Piette. Bonsoir.
Bonsoir.
Chef du service politique de France Culture, cette annonce nous parvient au lendemain des défilés du 1er mai, dans un contexte de contestation sociale, et alors que l'étiquette de président des riches colle de plus en plus à Emmanuel Macron. Alors, comment analysez-vous ces déclarations dans Forbes ? Est-ce qu'il a décidé d'assumer cette image ?
Depuis 6 mois, on parle du sparadrap du capitaine ad hoc, mais Emmanuel Macron n'a absolument aucun problème avec cela. Il se défend d'une politique cohérente et globale. Il le répétait encore lors de ses 2 interviews télévisées sur TF1 le 12 avril. Il faut tout à la fois, disait-il, qu'on aide ceux qui réussissent, sinon ils vont aller réussir ailleurs, filant ensuite une nouvelle fois la métaphore du premier de corde. Et 3 jours plus tard, face aux journalistes Bourdin et Plenel, il enfonce le clou. Il faut attirer les meilleurs, tout en se défendant de s'occuper que des riches. Les riches n'ont pas besoin de président, disait-il même, ils se débrouillent tout seuls. Ce serait pourtant à ces très riches que s'adresserait sa politique, comme le faisait remarquer l'ancien président de la République, François Hollande, tout récemment, ou comme notre invité de notre édition de la mi-journée, le député Les Républicains Gilles Carrez, ancien rapporteur du budget, ancien président de la Commission des Finances de l'Assemblée. Il était donc sur France Culture au micro de Stéphane Robert et Antoine Mercier.
C'est incompréhensible, ça s'ajoute à la suppression de l'ISF, ça s'ajoute au prélèvement forfaitaire unique qui consiste à taxer ses plus-values à 30%. Ça, j'approuve Emmanuel Macron là-dessus. Pourquoi il va plus loin ? Moi, je pense que c'est les visiteurs du soir qui sont derrière cela. Il y a un moment, comme on dit en anglais, too much. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter et ne plus écouter ses amis.
Emmanuel Macron, trop sensible au lobby et à ses anciens amis banquiers d'affaires, selon ce député d'opposition, Gilles Carrez, cela reflète bien en tout cas la perception des Français interrogés dans la toute dernière livraison du baromètre Harris Interactive. Parmi les raisons de la non-confiance en Emmanuel Macron, on peut lire ceci. Cela reprend les propos majoritaires des personnes sondées. Ce président est beaucoup trop orienté vers le pouvoir des capitaux et non sur le bien-être des Français. Ou encore cette citation, c'est le président des riches. Il se moque éperdument de ce que pensent les Français du moment que ses amis banquiers et actionnaires se remplissent les poches.
Ludovic Piétenu, après les violences survenues hier en marge du défilé parisien du 1er mai, l'opposition réclame la création création d'une commission d'enquête parlementaire. Elle est demandée aussi bien par le socialiste Olivier Faure que par les députés du Front National. Quelques 1200 individus masqués et cagoulés s'étaient infiltrés dans le cortège avant de briser des vitrines, de saccager un McDonald's, d'incendier des véhicules et des poubelles. 109 personnes ont été placées en garde à vue et parmi eux, une vingtaine de mineurs. Alors que l'exécutif rejette toute défaillance, la CGT Île-de-France accuse les pouvoirs publics d'avoir utilisé les Black Blocs pour voler le défilé aux manifestants. Les évacuations d'universités s'accélèrent. Ce matin, la justice a ordonné le déblocage de l'université Toulouse, le Mirail. Mais la reprise des cours ne sera pas possible tout de suite, Frédéric Bourgade.
L'université est bloquée depuis le 6 mars dernier par des chaises, des tables et d'autres obstacles. Et toutes les assemblées générales ont reconduit le blocage. C'est pourquoi le syndicat étudiant UNI a porté l'affaire devant le tribunal administratif. Sa décision, rendue aujourd'hui, est claire, précise. Elle demande à l'administrateur provisoire de l'université Jean Jaurès de faire appel à la force publique pour libérer les accès à l'université, permettre la poursuite des cours et surtout la tenue des examens. Cette décision, de nombreux étudiants l'attendaient. Parmi eux, ces trois étudiants inquiets pour leur avenir.
Moi, mon souci, c'est que je pars en prépa l'année prochaine, mon année est déjà payée à l'avance. Enfin, je suis en licence de lettres, je suis en troisième année, j'ai aucune solution pour redoubler. Qui va valider ces connaissances-là si c'est pas un diplôme ?
Oui, il faut impérativement que les examens se fassent, ça c'est certain, oui.
Moi je me trouve pas individualiste parce que je veux avoir mon année. Mes parents ont investi de l'argent, moi j'ai investi mon temps parce qu'être étudiant c'est un travail.
L'administrateur provisoire n'a pas voulu jusqu'ici faire intervenir la police, mais la justice l'y contraint. Il dira ce soir ce qu'il a décidé. Les bloqueurs risquent cependant de ne pas être d'accord. Le déblocage s'annonce compliqué également. Il y a des réfugiés qui dorment dans l'université et des squatteurs dans le bâtiment de l'Arche, et bien sûr, un risque de violence.
À Nanterre, bloqué depuis plus de deux semaines, le blocage est reconduit jusqu'à lundi prochain. Blocage toujours à Paris-Rennes, à Paris 8, pardon, Rennes 2 et Lyon 2. Septième séquence de grève à la SNCF pour protester contre la réforme ferroviaire. Elle débute ce soir pour deux jours. Il devrait y avoir près de 30% de grévistes. La direction prévoit un TGV et un Transilien sur deux, deux TER sur cinq, un Intercité sur trois et trois internationaux sur 5. À Air France, demain, 85% des vols devraient être maintenus, et ce malgré la grève pour des hausses de salaire. Les plus pauvres sont aussi de plus en plus victimes du mal-logement. Selon un rapport de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, une part croissante des foyers français accède à la propriété, mais les plus modestes restent exclus de ce phénomène. Alors que la crise de 2008 a fait baisser leurs revenus, elle a également fait exploser les prix des loyers. Pauvreté et mal-logement sont ainsi étroitement liés en France, Mathilde Bénézet.
Oui, on peut même parler de cercle vicieux, tant pauvreté et mal-logement semblent s'alimenter mutuellement. Alors pour commencer, évidemment, les foyers les plus modestes n'ont pas accès aux meilleurs logements, mais cette situation est aggravée par la pauvreté. En effet, contrairement aux idées reçues, les foyers favorisés sont de plus en plus attirés par les villes moyennes, tandis que les plus pauvres ne fuient pas les villes chères, bien au contraire. La raison est simple, ces villes sont aussi les plus grosses pourvoyeuses d'emplois, notamment d'emplois peu qualifiés, et dans ces zones urbaines, non seulement les loyers sont plus élevés, mais les logements sociaux sont également pris d'assaut. Résultat, les ménages se retrouvent donc directement confrontés au mal-logement. Pire encore, face à l'augmentation des prix de l'immobilier dans les grandes zones urbaines, le poids des loyers explose dans le portefeuille des ménages les plus pauvres. Entre 2001 et 2013, la part du budget consacré au loyer est ainsi passée de 26 à 34% pour les locataires de logements sociaux et de 34 à 42% pour les locataires pauvres des bailleurs privés. Mais si la pauvreté pousse vers le mal-logement renforce également la pauvreté. La surpopulation ou le manque de chauffage engendre bien souvent des problèmes de santé qui se répercutent ensuite sur l'emploi. Ces conditions de vie pénalisent aussi fortement la réussite scolaire. Donc pour les enfants mal logés, le risque de pauvreté à l'âge adulte augmente. Le mal-logement devient alors un canal de transmission intergénérationnelle de la pauvreté.
Mathilde Bénézet, les malades se disant victimes de la nouvelle formule du Lévothyrex ne décolèrent pas. Ils l'ont montré ce matin en manifestant devant l'Assemblée nationale à Paris. Ils dénoncent une crise sanitaire qui est, selon eux, loin d'être terminée. Un an après la mise sur le marché de la nouvelle formule du Lévothyrox du laboratoire Merck, tous les patients concernés ne sont pas remis et beaucoup portent plainte. L'Association française des malades de la thyroïde appelle la justice à examiner rapidement différents lots de Lévothyrox, nouvelle formule. Elle a demandé elle-même une expertise privée, laissant apparaître des traces de métaux qui interrogent Mathilde Lemaire.
Une analyse qu'ils ont eu du mal à faire faire, beaucoup de laboratoires refusant d'établir une expertise étant donné les relations souvent avec le laboratoire Merck qui produit le lévothyrox. Deux analyses réalisées, une en France, une en Italie, sur 4 échantillons. Elles montrent dans la nouvelle formule des traces de métaux qu'on ne trouvait pas dans l'ancienne. Chrome, nickel, silicium, aluminium. Attention, le médecin spécialiste de l'association refuse de parler de poison, pas question de déclencher une panique étant donné les faibles quantités décelées. Mais il s'interroge, ces métaux, ces nanoparticules sont-elles plus nombreuses dans d'autres l'eau, d'autres comprimés peuvent-elles expliquer les souffrances des milliers de patients? 500 000 se sont détournés de la nouvelle formule. Beaucoup de questions se posent donc encore et l'association demande à l'agence du médicament et à la juge d'instruction saisie depuis 2 mois de lancer des investigations plus fines sur plus de l'eau. L'agence du médicament certifie que sur ses analyses effectuées à l'automne, sur certains échantillons, il n'y avait aucune impureté. Le laboratoire Merck déplore, je cite, le climat délétère entretenu par certaines associations de patients qui, je cite, diffusent de fausses informations.
Le laboratoire qui dément formellement la présence de nanoparticules et de débris d'acier dans le médicament. L'ETA a annoncé sa dissolution cet après-midi. L'organisation séparatiste basque a fait parvenir une lettre à plusieurs médias espagnols, organisations et personnalités politiques. C'est donc la fin officielle de presque 60 ans de lutte armée et une page de l'histoire du Pays basque qui se tourne plus ou moins douloureusement à Maya Cazenave.
La lettre, datée du 16 avril, est frappée du sceau de Théa, un serpent enroulé autour d'une hache. Dans ces 2 pages, l'organisation basque affirme avoir dissous toutes ses structures, avoir mis fin à son cycle historique et sa fonction, et considère son initiative politique terminée. Gorka Landaburu, journaliste basque blessé par le Théa, minimise la portée de cette lettre publiée aujourd'hui.
Je ne traite pas cette journée d'historique parce qu'on a traité tellement de journées historiques dans tout ce conflit de violence que nous avons vécu ici. Je considère que le communiqué le plus important, c'est celui d'il y a 7 ans, pratiquement, lorsque l'ETA a dit adieu aux armes. Ça, c'est le véritable communiqué où toutes les menaces de cette organisation terroriste ont disparu. Le reste, maintenant, c'est fermer la persienne, dire bon, au revoir ETA, effectivement. Ça vient trop tard, comme toujours, mais c'est dans ce sens-là.
Un communiqué officiel d'ETA pour être consécutif à la lettre publiée aujourd'hui. Dans tous les cas, des rencontres internationales sont organisées ce vendredi à Cambo-les-Bains pour aborder la fin du conflit basque avec différents acteurs politiques et syndicaux.
Amaya Cazenave de France Bleu Pays Basque. 1,279 milliards d'euros sur 7 ans, c'est tellement énorme. C'est le montant du futur budget propre de l'Union européenne tel que le propose la Commission européenne. Ce n'est que la première étape puisqu'une période de tractation de plusieurs mois avec les 27 capitales va maintenant s'ouvrir. Le budget proposé par la Commission européenne pour 2021-2027 est en nette augmentation malgré le départ des Britanniques et donc de leur contribution financière, Pierre Benazet.
Après plus de 2 décennies de réduction constante du budget, la Commission européenne propose une augmentation très nette. En prix courant, cela reviendrait à passer à 1279 milliards d'euros contre 1087 pour la période en cours, soit un passage de 1,01% à 1,11% du produit intérieur brut de l'UE. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, affirme pouvoir réduire malgré tout les contributions nationales des 27 États membres de l'UE en combinant des économies sur certains postes avec une augmentation des ressources propres, c'est-à-dire des paiements directs dans les caisses du budget commun.
Si nous avions simplement additionné les besoins aux politiques actuelles inchangées, en maintenant donc des rabais, si nous n'avions pas tenu compte du fait que 15 milliards résulteront du départ du Royaume-Uni, nous serions arrivés à une proposition proche de 2% du produit intérieur brut. Cette proposition aurait été immédiatement rejetée par tous les États membres.
Parmi les économies proposées, une réduction de 5% de la politique agricole commune. Pour les fonds de cohésion, ce serait moins 7%. Et le paiement de ces aides régionales serait par ailleurs conditionné au respect des règles de l'État de droit. Le programme Erasmus verrait lui son budget doublé, ce qui serait aussi le cas de la politique migratoire et de surveillance des frontières.
Vous le disiez Pierre, Bruxelles demande des coupes de 5% environ de la politique agricole commune, une proposition jugée inacceptable par la France. Une telle baisse drastique, massive et aveugle est simplement inenvisageable et la France ne pourra accepter aucune baisse de revenus directs pour les agriculteurs, indique le ministère de l'Agriculture. Alors que le Parlement arménien a prévu d'élire un nouveau Premier ministre le 8 mai prochain, la contestation continue de s'exprimer vivement dans la rue. Hier, l'opposant Nikol Pachinian n'a pas réuni le nombre de voix nécessaires pour devenir chef du gouvernement et il a appelé ses partisans à la désobéissance civile. Régis Janté, vous êtes à Yerevan et la capitale est paralysée depuis ce matin. Une démonstration de force de la part de ceux qui veulent le changement.
Effectivement, c'est une vraie démonstration de force, c'est le bon mot, et qui vient peut-être d'aboutir, parce qu'autour de moi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est vraiment la fête. Le parti républicain, le parti au pouvoir, honni pour avoir triché aux élections, pour être corrompu, etc., aurait annoncé ce soir, c'est à peu près certain maintenant, que finalement, mardi prochain, donc, il soutiendrait la candidature de Nikol Pachinian, qui se présente comme le candidat du peuple. Alors cette journée a été longue, elle a commencé à 8h15 précise, comme ça avait été demandé par M. Pachinian, par la paralysie du pays, des rues de la capitale, de la route de l'aéroport, des bâtiments publics également. Ça a été très suivi toute la journée et beaucoup de gens sont mobilisés. Je pense qu'à l'heure où l'on parle, autour de la place de la République, à Yerevan, et sur cette place, pour l'avoir mesurée, je peux dire qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui sont en train de danser et d'exprimer une joie absolument énorme.
On va donc continuer de suivre avec une grande attention ce qui se passe en Arménie. Merci beaucoup Régis Janté en direct de Yerevan. Téhéran dément les accusations du Maroc qui a décidé hier de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran. Rabat affirme que Téhéran a facilité une livraison d'armes au Polisario, mouvement indépendantiste au Sahara occidental. C'est la deuxième fois que Rabat se fâche avec Téhéran. La première rupture avait eu lieu en 2009 pour des questions religieuses. Le chercheur Kader Abderrahim a expliqué à Nadine Epstein le motif de cette nouvelle brouille.
Il s'agit de la question du Sahara, où le Maroc accuse l'Iran d'avoir militairement soutenu et fourni des armes via le Hezbollah au front Polisario. Et quand on sait l'importance et l'enjeu que représente pour le Maroc la question du Sahara, évidemment cette rupture des relations diplomatiques, puisque les diplomates marocains affirment avoir des preuves irréfutables, évidemment, elle devenait incontournable, je dirais. Donc oui, c'est une nouvelle crise entre les deux pays. Mais l'enjeu pour le Maroc n'est pas très important parce que ce n'est pas des pays qui entretiennent des rapports très importants. Ils sont vraiment aux deux extrémités de la Méditerranée et du monde arabe.
Ce n'est pas une façon pour le Maroc de se positionner de loin, mais de près avec les pays qui, en ce moment, s'élèvent contre l'Iran et essayent de mener une coalition internationale.
On pourrait le penser lorsqu'on voit que les premiers pays qui ont apporté leur soutien au Maroc dans cette rupture des relations diplomatiques, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Bahreïn, c'est le Koweït, toutes ces pétromonarchies du Golfe avec lesquelles le Maroc entretient des relations très importantes parce que tous ces pays du Golfe investissent énormément d'argent et soutiennent beaucoup de projets au Maroc. Donc on pourrait le penser, mais en réalité je ne crois pas. Je pense que le Maroc a sa propre dynamique et qui défend ses intérêts nationaux. En termes de politique intérieure que représente la question du Sahara, pour le Maroc c'est un sujet, c'était une ligne rouge que les Marocains ne pouvaient pas accepter.
Kader Abderrahim, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. L'Organisation mondiale de la santé vient de publier son rapport annuel sur la pollution atmosphérique dans les villes du monde et c'est en Inde que la situation est la plus préoccupante. Le pays compte en effet les 14 villes les plus polluées au monde en particules fines de 2,5 microns, c'est-à-dire les plus petites et les plus nocives pour les poumons. On retrouve à New Delhi le correspondant de France Culture et RFI, Sébastien Farcy.
Kanpur ou Faridabad, vous n'avez sûrement jamais entendu parler de ces villes moyennes du nord de l'Inde, mais elles étaient en 2016 les plus polluées au monde en particules fines, selon ce classement de l'OMS, avec des taux 17 fois supérieurs à ceux recommandés. La ville religieuse et touristique de Benares finit quant à elle 3e et New Delhi 6e. Pour Anumita Roy-Chaudhuri, directrice adjointe du Centre pour la science et l'environnement, ces résultats ne sont malheureusement pas étonnants.
La rapide urbanisation fait apparaître énormément de chantiers de construction. Les déchets sont brûlés à l'air libre, les citadins délaissent la marche ou les vélotaxis et utilisent maintenant des véhicules motorisés comme les motos ou les voitures. Les émissions de camions augmentent aussi beaucoup. Enfin, dans tout le nord de l'État, énormément de gens utilisent du bois ou du charbon pour cuisiner.
Toutes ces villes se trouvent en effet dans le nord de l'Inde, une région encastrée d'où les polluants s'échappent difficilement. Les métropoles du sud, comme Bombay, souffrent de problèmes similaires, mais bénéficient des vents marins qui évacuent ces particules. À New Delhi, la situation catastrophique a entraîné la mise en place de mesures efficaces contre la pollution pendant l'hiver dernier, des progrès qui ne sont pas pris en compte par ces relevés de 2016. Un système similaire doit maintenant être présenté dans les mois à venir pour une centaine d'autres villes indiennes.
Autre annonce de l'OMS aujourd'hui, l'île de la Réunion est confrontée à une épidémie de dengue sans précédent. Plus de 1800 cas ont été confirmés depuis le début de l'année. Et comme la Réunion est une destination touristique prisée, le virus risque de se propager à d'autres pays. Demain, le ciel sera très nuageux dans le sud avec des pluies éparses et en Corse des orages. Ailleurs, le temps sera sec et relativement ensoleillé. Le matin, les températures iront de 4 à 15 du nord au sud. L'après-midi, il fera 13 à 19 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 23 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.